Vous écoutez RTL.
Le Club Lisa.
Le Club Lisa.
Avec Bishanti Lissarassou sur RTL.
Bonsoir à tous et bonne année 2017 avec une pensée particulière pour Maggie de Piano Toli. Bonsoir Sylvain Charlet, bonsoir Bertrand Latour.
Salut à tous, salut Bichène.
Comment allez-vous messieurs, vous avez passé des bonnes fêtes?
Ah, excellente.
Oui, vous étiez à fond ce week-end sur la Coupe de France?
Bien sûr.
Bon, oui. On va en parler un petit peu.
Ah oui, on a passé notre week-end à la radio.
Bon, allez, je vous donne le programme ce soir. Mathieu Valbuena sera notre invité, interview enregistrée jeudi. Je le dis parce que certains m'ont dit qu'il jouait ce soir. On ne le savait pas. C'est vrai qu'on ne le savait pas qu'il jouait ce soir. Alors, avec lui, nous parlerons de son retour en forme avec l'OL, de son année 2016 horrible, de sa détermination à réussir à l'OL et des espoirs qu'il a toujours de revenir en bleu. Lyon-Montpellier, c'est le match du soir, l'une des affiches principales de cette Coupe de France. Dimitri Payet doit-il quitter l'Angleterre où il s'est fait un nom et revenir en France en signant par exemple à l'OM, puisqu'on parle de lui à l'OM. Olivier Giroud is back, comme le phénix qui est renaît de ses cendres. Il est le sauveur d'Arsenal et il a marqué le but de l'année en Angleterre. Et pourtant, après l'Euro, ça a été très dur à digérer, on va en parler. Où va s'arrêter N'Golo Kanté, le milieu de terrain des Bleus, qui continue sa progression fulgurante avec Chelsea? Sans oublier le top des clans, on a des petites surprises pour vous.
Il est de très très haut niveau ce soir.
Comme d'hab, hein, je dirais.
Il y a du Pascal Dubras dans le texte, on vous offre des bonbons, des Dragibus avec la Coupe de France et on a Philippe Sanfourche qui chante.
Donc vraiment, soyez au rendez-vous. Et je vais vous faire une révélation. Et puis il y aura les questions des auditeurs aussi, donc vos questions, dépêchez-vous d'ailleurs. C'est Bertrand Latour qui les récupère et puis voilà, je réponds. Voilà, un petit rappel Sylvain, peut-être des résultats du week-end.
On va y revenir bien entendu d'ici quelques instants, notamment avec la Coupe de France, tu le disais en introduction, puisque le tirage au sort vient de débuter.
RTL.
Le Club Lisa avec Bichente Lissarassou.
Donc Bichente, on attend le nom de la dernière formation qui va disputer la suite de la compétition, Lyon ou Montpellier. Alors on a déjà le tirage au sort pour le vainqueur de ce match, Bertrand, et ça promet d'être très très chaud en 16e de finale, puisque le tirage au sort en fait a débuté à 19h45 dans les salons du stade lyonnais. Donc Bertrand, on a déjà du très très lourd.
Ah ce sera forcément une belle affiche, puisque ce sera l'Olympique de Marseille qui recevra au stade Vélodrome soit l'Olympique Lyonnais, soit le Montpellier Hérault Sporting Club. Donc ça peut déjà nous faire une affiche pour ces 16e de finale.
Donc pas mal. L'enjeu du qualifié ce soir. On a aussi la composition du groupe lyonnais, enfin du 11 lyonnais qui va débuter le match tout à l'heure, soir de Coupe de France, à partir de 21h, Bertrand.
Et Mathieu Valbuena est titulaire au sein de l'attaque lyonnaise dans un 4-4-2. Anthony Lopez est dans la cage. En défense, Raphaël Mapouyangem Biwa, c'est sa musique, Diakabi et Jérémy Morel. Au milieu de terrain, Gonalon Touzard. Sur le côté gauche, Mathieu Valbuena, à droite Maxwell Cornet, et une attaque à deux têtes, Bicéphale, Lacazette, Fekir. Donc c'est une équipe très compétitive alignée par Bruno Genesio. C'est vrai que Lyon s'est fait éliminer de la Coupe de la Ligue déjà, donc il y a peut-être l'obligation de gagner un trophée, ça pourrait être la Coupe de France.
On aura l'occasion de se plonger dans l'ambiance de ce match tout à l'heure aux alentours de 20h50, mais Bichène, dans un instant on va vous diffuser donc cet entretien réalisé avec Mathieu Valbuena. Pourquoi avoir voulu inviter Mathieu Valbuena dans le Club Lisa, Bichène?
Parce qu'il a vécu une année 2016 horrible. Il a fait de l'actualité, pas l'actualité sportive. Il a raté l'Euro alors que ça a été un élément déterminant de la Coupe du Monde de 2014 au Brésil. Voilà, pour toutes ces raisons, il revient en forme aussi. Il revient en forme avec l'OL et on veut savoir où il en était.
Dans un instant, entretien entre Bichente Lissarassou et Mathieu Valbuena.
Le Club Lisa.
Le Club Lisa.
Avec Bichente Lissarassou sur RTL.
Valbuena qui double la mise à la réception d'un centre de Rachid Ghezal. C'est lui qui avait donné le ballon à Rachid Ghezal sur le premier but lyonnais.
Mathieu est un grand bonhomme, on le savait. On voit que c'est un des meilleurs joueurs du championnat. Et tout ce que je lui souhaite, c'est de devenir vraiment cette année le meilleur joueur du championnat.
Il m'étonne parce qu'il montre une grande force de caractère. Bon, on le savait, mais il montre qu'il a des qualités morales au-dessus de la moyenne.
Vous savez, il a subi, j'aurais pas voulu être à sa place. Il a un mental exceptionnel, il est presque au top de sa forme.
Mathieu Valbuena est notre invité dans le Club Lisa. Salut Mathieu.
Salut.
Et bonne année 2017.
Bienvenue à toi aussi.
Ouais, on te souhaite une grande année 2017.
J'espère bien, j'espère.
Voilà. Et qu'elle se passe comme ça s'est terminé en 2016. Parce qu'on t'a vu retrouver des couleurs, retrouver toutes tes qualités, retrouver ton talent. Raconte-moi un petit peu cette fin d'année où vraiment tu as été un élément déterminant de l'OL.
Bah, c'est vrai que j'ai eu des soucis un petit peu derrière moi. C'est vrai que j'étais bien physiquement. Déjà, je pense qu'il y a plus de chances qu'on soit performant quand on est bien physiquement et quand on est à 100%. Et donc, ça a été le cas. Après, c'est vrai que ma première titularisation de cette bonne forme, ça a été à Zagreb où ça s'est bien passé. Et après, derrière, j'ai enchaîné. C'est vrai que ce but contre Paris m'a fait énormément de bien aussi.
Il est bon,
pour le moral. Et puis, malheureusement qu'on ait perdu, mais c'est vrai que ça a été une satisfaction personnelle sur ce match-là. Mais derrière, voilà, j'ai pu confirmer que j'étais toujours là et que j'étais pas mort comme beaucoup de personnes ont pu le dire. Et puis. Et puis voilà, derrière ça s'est enchaîné et c'est presque malheureux qu'il y ait eu une trêve parce que j'étais bien parti, mais bon voilà, ça m'a permis de me reposer aussi en famille pour, on va dire, mieux repartir en 2017.
Bichent, moi je me rappelle d'un moment, alors Willy et Mathieu vont me rappeler exactement la date, il y a cette blessure à la clavicule, c'est fin novembre Mathieu, c'est à quel moment déjà cette blessure à la clavicule?
22 octobre.
C'est beaucoup plus tôt.
Ah ouais, c'est même
parce que
octobre.
Fin novembre justement,
moi,
c'est
22
voilà.
octobre.
C'est voilà. Ce but
et très exactement.
Ouais. Et en fait, moi Mathieu, pour être tout à fait honnête avec toi, ce jour-là je me suis dit, ah, c'est vraiment la poisse ne va jamais le quitter, et je me suis dit, j'ai peur que plus jamais il ne porte le maillot de l'OL.
De l'OL.
On a tellement été habitués.
Ouais, puis ils cherchent à recruter là. Ils veulent des anciens. Ils sont sur Payet, sur Mandanda. Bon, Valbuena, ça peut le faire aussi. Vraiment, non. Je me suis dit, quelle poisse.
Après, sans rien vous cacher, franchement, j'ai eu la même réaction dans le sens que j'avais vraiment la poisse. Parce que quand on se retrouve à 60 mètres de son but et qu'on s'en pègue, on va dire, un peu l'arbitre, et qu'après on retombe. Et quand on retombe sur la clavicule, je me suis dit, ben là, il n'y a rien pour moi.
C'est une poignée de minutes en plus après l'entrée en jeu.
Voilà, au bout de 6-7 minutes. Après, c'est vrai que ça a été déjà, tout simplement, c'était déjà tout très douloureux, parce que c'est vrai qu'ils ont mis au moins 1h30, 2h pour me la remettre, parce que j'ai été obligé de faire une anesthésie générale pour aller à l'hôpital, parce qu'ils n'arrivaient pas à me la remettre. Quand je m'inscris dans un projet qui était de Lyon l'année dernière, je ne change pas mon discours. Mon discours était de réussir dans ce club-là, qui m'a fait confiance. Et j'étais venu avec beaucoup d'ambition. Après, douter, franchement, ce n'est pas dans mon vocabulaire. Dès que ça s'est passé, le lendemain, le surlendemain, j'étais prêt à revenir sur le vélo pour revenir.
Alors Mathieu, vous dites que ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais paradoxalement, Bruno Genesio a dit que ça a été la blessure déclic, en fait.
Je suis pas forcément d'accord quand il dit que c'est un déclic. Ah, c'est un déclic parce que derrière, il y a eu mes performances qui ont été bonnes, mais elles auraient pu l'être aussi avant. En début de saison, j'ai pas eu ma chance.
T'as été frustré à ce moment-là de pas avoir ta chance?
Oui, bien sûr.
Tu n'as pas compris toujours pourquoi?
Parce que au début, je me suis dit, c'est vrai que l'année dernière, il s'est passé tout ce qui s'est passé. On va pas remettre ça sur le tapis. Ce que je veux dire, tout ça, c'est derrière moi. Après, vivre des saisons difficiles, Bissaté, tu le sais, tous les joueurs, ils réussissent pas toujours dans leur première année dans un club. Et des fois, il leur faut des fois une deuxième année. Et encore plus moi, avec ce qui s'est passé extrasportivement et tout ce qui s'est passé autour de moi. Maintenant, c'est vrai que je pensais que tous les compteurs allaient remettre à zéro pour ma deuxième saison en tout cas. Et c'est vrai que ça n'a pas été le cas. Mais j'ai respecté les choix du coach, je m'en suis expliqué avec lui. Et tout simplement, derrière, j'ai continué à parler, à être performant et être tout simplement professionnel. Et de me dire que pourquoi je l'ai fait avec Deschamps, il ne voulait pas de moi pendant 6 mois. Et derrière, on sait ce qui s'est passé. Voilà, à moi de continuer. Bien sûr qu'il y a plein de louanges, mais moi je m'enflamme pas. Comme moi, je noircissais pas le tableau quand ça allait pas.
Pour compléter ce que disait Sylvain tout à l'heure, moi aussi, c'est vrai qu'il y a un moment donné, quand j'ai vu sur cette deuxième saison, parce que comme tu l'as dit, bon, la première, il s'est passé tellement de choses, ça a été tellement compliqué, mais sur cette deuxième saison, quand j'ai vu les blessures, quand j'ai vu l'enchaînement de choses, je me suis dit, je crois qu'il faut qu'il parte, Mathieu, je crois qu'il faut qu'il parte à l'étranger, dans un endroit où il sera un peu plus tranquille. Il y a quand même une grosse pression sur toi en France aussi. Bon, il y a eu cette affaire, l'affaire avec Benzema, mais pas que, parce que tu t'es fait siffler aussi dans certains stades, à Marseille, il y a eu ton retour à Marseille qui était compliqué. Je veux dire, tu étais vraiment contre vents et marées, quoi. Et c'est quand même assez incroyable. C'est vrai que tu as toujours eu un mental incroyable, déjà de par ta carrière, ton début de carrière. Mais là, je me suis dit, ça fait beaucoup trop pour un seul homme. Et je pense que les blessures que tu as eues, tu crois pas que c'est aussi lié un peu à,
oui,
à ça?
Je suis d'accord avec toi, mais il n'y a pas de souci. Je sais que quelque part, quand un joueur n'est pas 100% mentalement, 100% bien dans sa peau, et tu peux avoir des blessures. Dans toute ma carrière, j'ai rarement eu des blessures. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, c'est vrai que tu dois partir parce que Lyon, j'ai l'impression que tu n'y arriveras pas. Mais le problème, c'est que plus on me dit ça, et plus je vais faire le contraire. Donc c'est comme ça. Et je n'aime pas les échecs. Et quelque
mais
part,
c'est pas toujours un échec, tu sais. Mais attention, hein, quand je te dis ça, je te dis pas.
Pour moi, partir de Lyon et sans avoir montré, pour moi, c'est un échec. Je compte y arriver et je me suis fixé ça. Et quand j'ai une idée derrière la tête, je l'ai pas, ou tu sais. Donc après, voilà, c'est comme ça. En une seule année, ce que j'ai vécu, c'est peut-être pas, certaines personnes ne peuvent pas le vivre peut-être en une carrière, parce que j'ai eu tout contre moi.
Mais au-delà des affaires, au-delà des blessures, est-ce que vous ne vous êtes pas posé des questions par rapport simplement au niveau du jeu? Parce qu'il y a des jeux qui sont, il y a des joueurs qui sont faits pour certaines équipes, pour certaines philosophies de jeu, et il y a eu beaucoup de discussions simplement au niveau football.
Oui, bien sûr. Mais après, je sais où je suis tombé, et je sais que c'est un jeu différent. C'est vrai, comme j'ai dit, à l'OM, l'équipe joue un peu pour moi. En équipe de France, ça a été aussi un peu le cas. Après, comme j'ai dit, à moi de m'adapter. C'est pas Lyon qui va s'adapter à moi. J'ai fait beaucoup d'efforts. Parce que moi aussi, c'est une remise en question. C'est une remise en question aussi sur moi-même. Parce que, vous savez, quand on joue pas, on dit toujours que c'est la faute des uns, des autres, des entraîneurs. Mais il y a aussi une remise en question en permanence, hein, sur moi-même. Hein, ça a toujours été le cas. Et à moi, c'était à moi aussi de faire des efforts encore beaucoup plus sans ballon. Voilà. Donc, c'est des choses aussi que j'ai pris conscience. Et à tout âge, on prend conscience des choses, et à tout âge, on progresse. Et puis voilà, j'ai été aussi récompensé aussi ces derniers mois, de, quand j'ai marqué mes buts, c'est que je me suis pas trop dispersé aussi sur le terrain, je suis resté dans mon couloir, et ça m'a permis d'être comme je suis à droite devant le but, de marquer des buts. Donc c'est un tout. Après, c'est vrai que voilà, je me suis adapté à ce jeu-là et aux joueurs qui constituent l'équipe.
Mathieu, aujourd'hui, comment ça se passe, donc la situation dans le vestiaire lyonnais? Tu te sens vraiment bien? Tu te sens à ta place? La relation technique avec la Casette, avec Fekir, avec Ghezal, enfin avec tous les joueurs lyonnais aujourd'hui, tu te sens bien dans ce club, mais après une année difficile, on va dire?
Franchement, mais honnêtement, même si on veut parler de cette première année, mais j'ai eu aucun problème avec personne. Vraiment. Mais moi, franchement, personnellement, tous les gens m'apprécient dans les joueurs et vice-versa. Et après, voilà, aujourd'hui, je suis arrivé dans un club où c'est à moi de prouver, de montrer. Après, il y a eu des circonstances qui ont fait que la première année, aujourd'hui, il y a eu... On m'a fait venir ici pour avoir une complémentarité avec Alex et avec Nabil. On a joué combien de fois ensemble la première année?
Ah, on a les chiffres, Willy?
Et ouais.
Ou pas?
Mais à un moment donné,
il y a très peu de matchs, parce que
il y a très
Mathieu,
peu de matchs.
Mathieu est arrivé, Nabil Fekir s'est blessé.
Donc ça a été déjà compliqué. On sait très bien que Nabil, avant sa blessure contre le Portugal en équipe de France, il marchait sur l'eau. On pouvait tous le constater. Donc on avait déjà eu les quelques bribes de matchs qu'on a eu. Une très bonne relation, et même avec Alex. Mais aujourd'hui, depuis maintenant un an et demi que je suis là, combien on a fait de matchs ensemble?
Non, mais c'est pas humainement.
15, peut-être.
Il s'est dit beaucoup de choses.
Et 15, on est bien large. Qu'on a débuté ensemble.
Ouais,
donc, quelque part, ça aussi. Après, ma première partie de saison avec Lyon, si on regarde vraiment mes matchs à la loupe, parce que je les regarde tous, et je les re-regarde tous, ils n'ont pas été si mauvais que ça. Mais oui, c'est vrai qu'il n'y avait pas les buts, il n'y avait pas les passes décisives, il n'y avait pas les choses décisives qui étaient à la clé.
Mathieu, est-ce que vous conseillez quand même que cette saison, depuis que ça va bien, depuis le mois d'octobre, fin octobre, vous jouez plus simple peut-être que ça a pu être le cas quand vous êtes arrivé à Lyon, que vous avez un peu épuré votre style?
Peut-être, bien sûr. Et c'est pas pareil. Je veux dire, aujourd'hui, si je prends un exemple d'un 4-3-3 en équipe de France que je jouais, d'un 4-3-3 à Lyon, c'est différent. Après, moi, je m'adapte. Ça n'a pas été facile depuis le début, parce que j'avais toujours, des gènes que j'avais avant. Mais maintenant, je sais ce qu'on me demande de faire. Après, on me bride pas non plus. Mais voilà.
Et puis les partenaires vous cherchent aussi davantage. Parce que vous sentez.
Et puis voilà, je sens aussi que mes partenaires, ils ont confiance en moi. Donc voilà. Après, voilà, il y a des leaders d'attaque comme Alex, comme Nabil. Et après, derrière, ça tient aussi. Donc voilà, je pense qu'on est assez équilibré. Mais c'est vrai que Je pense avoir aussi un petit peu plus épuré mon jeu, et surtout je me disperse un petit peu moins, c'est sûr.
On fait une petite pause. Mathieu Valbuena est notre invité dans le Club Lisa. On se retrouve dans un instant. On a des surprises pour Mathieu. Puis on va parler aussi un petit peu de Didier Deschamps quand même, parce qu'il y a peut-être une belle année 2017 qui se présente pour les Bleus, pour Mathieu, pour plein d'autres choses. A tout de suite.
Avec deux affiches du tirage au sort de la Coupe de France, les 16e de finale, le tirage au sort est en cours. On a deux belles affiches. L'Olympique de Marseille recevra soit l'Olympique Lyonnais, soit Montpellier, puisque le match a lieu à 21h. Et la deuxième belle affiche, c'est Rennes qui recevra le Paris Saint-Germain d'Unai Emery.
Dans un instant, Mathieu Valbuena avec Bichentelli Sarasu dans le Club Lisa.
RTL,
le Club Lisa
avec Bichentelli Sarasu.
Mathieu Valbuena est notre invité dans le Club Lisa. Mathieu, on a une petite tradition dans ce Club Lisa. C'est le quiz de Bertrand Latour. C'est à toi, Bertrand.
Rien de bien méchant, Mathieu. Il en a vu d'autres. Non, simplement, c'est le mercato actuellement. Mathieu, évidemment, ancien marseillais. Sylvain commence à le dire. Marseille pense à Mandanda. Marseille pense à Payet. Peut-être que Papin va rejoindre le staff. Est-ce qu'ils vous ont appelé ou pas?
Non.
Non, et ça vous intéresse pas trop, je pense, non? Vu le dernier accueil, non?
Non, après Marseille, j'ai toujours dit, et je le répéterai encore, hein, Marseille reste le club de mon cœur. Mais aujourd'hui, je suis lyonnais, et voilà, on a plein d'ambitions et d'objectifs à atteindre, que je suis dans ce projet-là, et j'en suis très fier.
Mathieu, le dernier international français de renommée qui était arrivé à Lyon, c'était Johan Gourcuff. Est-ce que quand vous étiez au fond du trou, vous avez eu peur à un moment donné d'arrêter votre carrière professionnelle en signant à Lyon?
Non.
Insubmersible.
Je ne peux pas t'empêcher. Hein.
Insubmersible, t'empêcher. Mathieu Valbuena. Depuis le mois de décembre, vous êtes en feu. Est-ce que vous avez retrouvé des amis? Est-ce que vous recevez davantage de textos, davantage d'appels qu'au mois de septembre-octobre ou pas?
On connaît ce milieu-là, bien sûr.
Ça existe vraiment?
Oui. Et ils reviennent comme une fleur, c'est bien sûr.
Et comment ils tournent leurs messages d'ailleurs? Ils disent quoi dans ces messages? Ah Mathieu, comment tu vas? Ça faisait longtemps.
Non, ça faisait très longtemps. Bonne année, continue comme ça, c'est bien. J'ai toujours cru en toi, alors que justement ils disaient mais je croyais plus en lui quoi.
C'est quoi la réponse? Il y a une réponse ou pas?
J'ai dit merci, good luck.
C'est bon, il ne manque pas d'esprit. On termine en musique, Sylvain.
Oui, en musique, forcément.
Mathieu, on a un petit jeu, ça nous amuse. Je vais vous proposer deux musiques et puis vous me dites ensuite laquelle
ça,
vous préférez.
Ça n'amuse pas tout le monde.
Généralement, ouais, non, moi ça ne m'amuse pas parce qu'en général, il choisit des musiques qu'il aime lui.
Non, les joueurs, Latour, les joueurs.
Et généralement, c'est des musiques que je trouve naze personnellement.
Les joueurs, et je prends.
Les joueurs. Ah, parce que tu représentes les joueurs.
Non, mais en fonction des joueurs, j'adapte ma playlist et vous allez voir, je pense que Mathieu va aimer, mais je ne veux pas parler à sa place. Première musique. Donc ça c'est Jay-Z évidemment, voilà.
Très bon choix.
Ça c'est la première musique.
Je sais pas si Bichette va le valider.
Non, parce qu'après si Bichette va le dire, on influence.
Mais j'attends la deuxième.
Et la deuxième c'est celle-ci.
Moins fan.
Moi je pense la première.
Ah ouais, d'accord.
Jay-Z.
Voilà.
C'est qui la deuxième?
Tayo Cruz, Hangover.
Ah ouais. Bichette, tu prends laquelle?
Non, je participe pas à ce jeu musical.
Non, mais est-ce qu'on a un Ben Harper pour Bichette?
Mathieu, est-ce que tu aimes ces deux musiques?
Ouais, j'aime pour tout vous dire, j'aime ces deux musiques. Après, j'ai une préférence sur Jay-Z. Mais moi, j'écoute de tout. J'écoute de la Deep House, du R&B, du hip-hop. Je suis quand même assez varié.
Est-ce que tu écoutes Ben Harper? Non, mais le plus important, est-ce que tu écoutes Ben Harper?
Ça m'arrive.
Ça veut dire non,
j'écoute pas tous les jours, mais ça m'arrive. Si, ça m'arrive.
Donc, voilà. Moi, je suis extrêmement fermé, je n'écoute que mes musiques.
D'accord.
Voilà. Ben Harper.
Ben Harper. Voilà.
On a fait réveillon chez Bichette, on a fait une spéciale Ben Harper. On a fait un quiz Ben Harper. Et à Noël, pareil, on lui a offert un coffret Ben Harper.
Ok.
Enfin. Bon, on prend cette interview, Bichette.
Oui, parlons de football.
Parlons sérieusement.
Oui,
un peu.
Oui, arrêtons de parler musique, surtout les choix musicaux de Bertrand Latour. Revenons sur l'OL. Et puis aussi, revenons, pourquoi pas, sur l'équipe de France. Tu sors là d'une fin d'année de qualité, tu retrouves toutes tes sensations. Est-ce que dans un petit coin de ta tête, tu repenses un peu à l'équipe de France, même si bon, je pense que c'est peut-être un peu trop tôt, parce que tu as envie encore de t'affirmer un peu plus avec l'OL, j'imagine.
J'y pense sans y penser. L'équipe de France, c'est vraiment tout pour moi. C'est une énorme fierté de porter ce maillot. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai traversé tellement des choses difficiles que vraiment, j'ai envie de profiter, prendre du plaisir. Parce que récemment, depuis 2016, j'en ai pas pris énormément.
C'est donc la pire année de ta carrière, 2016?
Mais celle-là, elle a été catastrophique. Parce qu'il y a eu toutes ces histoires, parce qu'il y a eu un euro loupé, parce qu'à Lyon, ça a été compliqué.
Mathieu, est-ce que tu as peur de ne plus jamais retourner en équipe de France quand on voit notamment la jeune génération qui pousse, que ce soit Dembélé, Lemar, Fekir, Mbappé, etc. Est-ce que tu as peur que ton tour soit passé?
Non,
parce que je l'équipe de France, et je le répète encore, c'est quelque chose de fantastique pour moi, mais j'y renonce pas. Pour moi, l'équipe de France s'est arrêtée trop brutalement. C'est pour ça que j'y renonce pas. Parce que pour moi, ça peut pas se finir comme ça.
Donc lorsque Didier Deschamps laisse la porte ouverte, pour vous, c'est pas de la langue de bois?
Non.
Vous le connaissez bien.
Bien sûr, non. Je pense qu'on se connaît très bien même. On s'est eu au téléphone avant l'Euro. C'est une discussion qu'on a eue entre nous.
Et non, tu peux pas nous dire.
Mais après, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, comment ça s'est fini l'équipe de France, pour moi, ça a été trop brutal. Je mérite pas que ça se finisse comme ça.
T'as
en
vécu
tout cas,
ça
je
comme
ferai
une injustice.
Tout. Non, j'ai pas dit comme une injustice parce que quelque part, je jouais pas avec mon club, ça a été compliqué. Donc, j'ai pas dit que c'était une injustice. J'ai pu comprendre les décisions du coach. Bien sûr, il y a pas de souci et il y a aucun problème par rapport à ça. J'ai pas peur qu'ils me reprennent pas parce que ça sera comme ça, c'est la vie. Aujourd'hui, il y a des jeunes talents et ils sont jeunes et ils constituent l'avenir de l'équipe de France. Si je reste performant, bien sûr que j'y renonce pas et je ferai tout. J'ai quand même disputé deux Coupes du Monde et un championnat d'Europe, ce qui n'est pas rien. Après voilà, pour moi, ça s'est arrêté trop brutalement. C'est pour ça que j'ai dit que ça ne peut pas s'arrêter comme ça et je ferai tout pour y revenir.
Tu dis qu'il a eu raison de ne pas te prendre parce que tu considères que sportivement, bon, tu as été impacté par ce qui s'est passé, par l'affaire avec Benzema, au niveau de ta forme. Et c'est pour ça que tu trouves qu'il a eu raison de ne pas te prendre pour l'Euro?
Oui, oui, oui. Puis en plus, j'étais pas... Déjà, Edin, physiquement, j'étais blessé, j'avais mal à l'ischio. J'ai joué le dernier match contre Reims, 15 mai, j'étais blessé, ou le 20 mai, je ne sais plus, j'étais blessé. Après, je vivais une saison où je ne jouais plus beaucoup, et que quelque part, il y avait une équipe qui s'était formée et qui gagnait les matchs.
Comment tu as vécu l'Euro, Mathieu?
Le cœur serré, tu as vécu l'Euro?
Oui, mais j'ai regardé tous les matchs.
Comme un supporter ou comme un joueur de l'équipe de France qui
si j'étais avec eux, vraiment. Parce que déjà, Edin, j'ai toujours beaucoup de personnes au contact encore. Et que pour moi, c'est comme si j'étais avec eux et je les supportais. Et ça a été dur. Mais dès que l'Euro a été fini, je suis passé à autre chose.
Je me demandais, Mathieu, si tu avais recroisé Karim Benzema.
Non.
Vous avez échangé des messages ou il y a vraiment de la distance entre vous aujourd'hui?
Non, il n'y a pas de distance, mais on ne s'est pas échangé. Je suis pas en contact avec lui quoi.
Qu'est-ce qu'on te souhaite pour 2017?
Franchement, honnêtement, prendre du plaisir. Vraiment prendre du plaisir, être performant avec mon club, que Lyon fasse une grande partie de saison, une grande deuxième partie de saison, et d'atteindre nos objectifs, c'est-à-dire être finir dans les deux ou trois premiers.
Tu penses Lyon capable d'aller attraper la qualification?
On est capable. La seule chose qui des fois peut être inquiétante chez nous, c'est qu'on manque de régularité dans nos contenus de match et des fois par rapport aux adversaires. Parce que sur certains adversaires, on va se mettre au niveau et sur d'autres, on va pas reconnaître le Lyon qui a joué peut-être le week-end d'avant. Après, bien sûr, il y a la Coupe d'Europe d'aller plus loin possible. Après, j'ai lu qu'il fallait qu'on gagne la Ligue Europa. Donc
c'est votre président hein, qui vous
bien
l'exige.
Bien sûr, c'est le président, mais c'est une belle ambition. Il faut être ambitieux, je pense, dans la vie. On est capable de faire de belles choses. Et là, on a la Coupe de France qui serait un beau challenge. Dommage pour la Coupe de la Ligue parce qu'elle était chez nous. Plus personnellement, bien sûr, continuer sur ma lancée, faire plaisir, marquer des buts. Et
on marque,
hein,
on marque. Mathieu, il y a une règle de base. Quand on passe en club Lisa, on marque. Mais il y a une nouveauté maintenant.
Ah bon
On a même réussi à faire marquer Radji, notamment.
Alors, il y a désormais une nouveauté. C'est Fabinho qui a lancé la mode en décembre dernier. Il nous a commenté son but. Bon, il l'a fait en brésilien.
Oui,
tu te sens capable, Mathieu, de commenter ton but en français, de faire le commentateur sportif là?
Oh, vous c'est dur ça. Attends, je suis pas Lisa, moi.
Vous le faire avec Willy, hein. Vous le faire ensemble, hein.
Je suis pas Lisa.
Je peux vous lancer. Je te lance, Mathieu. Attention. Le débordement de Nabil Fekir, qui donne en retrait à Willy Maisonnas. Willy Maisonnas.
Petit décalage pour Mathieu Valbuena.
Et Mathieu Valbuena qui arrive lancé au plat du pied, lucarne opposée. Merci, au revoir.
Pas mal.
Elle était pas mal quand même. Hein,
pas mal, c'est pas mal.
Bon, merci, au revoir, c'est pas bon. Mais bon, c'était.
Merci, au revoir en commentaire.
C'était la 92e, je me suis un peu flammé quand même.
C'est une nouvelle façon de commenter.
Merci.
Moi, j'ai une dernière question. On a parlé de ton rapport avec Bruno Genesio. Il y a un homme très important à Lyon, c'est le président Aulas. Comment ça se passe avec lui? Est-ce qu'il t'a soutenu tout au long de tes difficultés quand tu es arrivé à l'OL?
L'année dernière, c'était avec la saison que j'ai pu avoir et tout ça. C'est vrai qu'il a toujours eu des mots sympathiques à mon égard. Et il m'a toujours soutenu. Et j'avais eu une discussion un jour avec lui quand on a fini la saison l'année dernière, quand on est partis tous ensemble à Saint-Tropez. Et j'avais parlé avec lui, je lui avais dit que si je me battais, c'était surtout pour lui parce qu'il m'a donné sa confiance et il m'a toujours soutenu dans des moments même difficiles. Après, avec le coach, j'ai une relation très professionnelle. Je pense qu'on sait se dire les choses. On a pu avoir pas énormément de discussions. Bah, elles ont été franches et sincères, donc c'est ça le plus important.
Mathieu, si je vous dis que dans
votre... termine là-dessus.
Ouais, Mathieu, si je vous dis que dans votre discours, je vous trouve moins revanchard, plus détendu que par le passé, c'est vrai ou pas ?
Ça glisse plus.
Ouais.
Ouais. Moi, ça n'a jamais été un long fleuve tranquille, de toute façon, depuis le début. Et je pense que ça ne changera pas jusqu'à la fin de ma carrière. Je le sais. Je sais qu'on me fera moins de cadeaux que les autres. Je le sais. Et je vis comme ça.
Pourquoi ?
Je sais
pourquoi,
pas.
Pourquoi on te fait moins de cadeaux
que les autres ? Je ne sais pas. Parce que peut-être que depuis le début de ma carrière, on m'a jamais peut-être pris au sérieux. On a toujours dit que peut-être que j'arriverais pas au niveau, réussir à Marseille, encore moins une équipe de France, que j'allais jamais être, que j'avais pas le niveau pour ci pour ça. À chaque fois, j'ai réussi à tout simplement contredire. Vous savez, des gens aigris et des gens mal intentionnés, il y en a beaucoup. Je suis maintenant papa, donc je vois les choses différemment. J'ai ma famille qui me soutient, ma femme, et c'est ça le plus important.
Merci beaucoup Mathieu.
De rien.
C'était très intéressant, merci à toi.
Bon, merci.
Et écoute, on te souhaite de réussir. On te Allez. Souhaite tout simplement de réussir à l'OL, voilà, de faire les comme tu as fait en fin d'année, tout simplement.
On espère.
Et,
voilà.
le but, et le but à la 92e en Coupe de France ce soir.
Ok, pas
voilà,
de soucis.
Voilà, et qu'on te commente en marquant des buts.
Allez, ça va, avec plaisir.
Merci Monsieur Albuena.
Merci à tout le monde. Ciao, ciao.
Ciao, bye salut. Bye. Bon, messieurs, c'était de la bonne, comme on dit. Non, mais ce que je voudrais dire aux auditeurs, puisqu'on a eu le plaisir d'échanger, quand tu échanges comme ça, il y a bon, ce qu'on entend à la radio, puisque tu ressens aussi. Je pense que ce qu'il faut dire de Mathieu Valbuena, c'est que c'est vraiment un garçon courageux, parce que dans le contexte dans lequel il a évolué à l'OL depuis qu'il est arrivé, ça n'a pas été facile du tout pour lui. Il n'a rien lâché, il est en train de revenir à son meilleur niveau, il est humble. Puisqu'il dit que c'est à lui de s'adapter, il dit aussi qu'il a envie de revenir en équipe de France, mais qu'il comprend que ça va être difficile, qu'il y a de la concurrence. Voilà, alors c'est vrai qu'il a
Il était touchant.
Ouais, il était touchant, mais.
Je trouvais qu'il parlait avec le cœur.
Moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est quand même assez curieux. On tape beaucoup trop sur. Enfin, on tape beaucoup sur lui. J'essaye de comprendre pourquoi. Alors, il y a une époque, il était. Voilà, il avait des grosses voitures, il se sapait un peu mode. Voilà, c'était peut-être période un peu bling-bling à Marseille. Alors, je ne sais pas si on lui reproche ça ou on lui reprochait de se jeter un petit peu trop, mais je veux dire, si tu enlèves ça, voilà, il fait preuve d'une force de caractère incroyable, et ça c'est je veux dire, on lui doit le plus grand respect pour ça, pour la façon dont il mène sa carrière, la façon dont il rebondit à tout. Et je pense que ça serait bien d'arrêter un peu de tout le temps le tacler, de tout le temps se moquer de lui, et voilà, c'est ce que je voulais dire.
On est dans le club Lisa, on est ensemble jusqu'à 21h, car vous le savez, à partir de 2017 tous les matchs vont reprendre à 21h au lieu de 20h45. C'est une très bonne nouvelle, un quart d'heure
très,
de
très
bonus.
Bonne nouvelle pour le club Lisa.
Voilà, un nouveau vœu a été exaucé en 2017.
Merci Père Noël.
Et vous savez que tout à l'heure on suivra un 32e de finale de la Coupe de France entre Lyon et Montpellier. Sachez qu'avant ce match à Lyon est organisé le tirage au sort des 16e de finale à venir, et il y a du très très lourd, déjà plusieurs oppositions entre clubs de Ligue 1. La première, eh bien, ce sera le vainqueur de Lyon-Montpellier qui se déplacera à Marseille. Ce sera à la fin du mois de janvier, 31 janvier au 1er février. Le Paris Saint-Germain se déplacera à Rennes. Autre choc entre clubs de Ligue 1, Bordeaux accueillera Dijon, Lille recevra Nantes et Angers accueillera Caen. Le tirage est en cours, et vous dire que le petit poussé, le poussé selon Christian Olivier, Poiré-sur-Vie, club de DH, se déplacera en Ligue 2 sur la pelouse de Strasbourg. Et on aura un choc de national avec un club de Quevilly qui brille régulièrement depuis des années en Coupe de France. Quevilly sera opposé à une autre formation de national, Marseille-Consola. Soyez bien vigilants pendant ce club Lisa, puisque d'ici 21h on vous donnera les autres belles affiches de ce tirage au sort. Et n'oubliez pas le tirage au sort complet, les premières réactions sur notre site rtl.fr.
Le club Lisa sur RTL,
la revue de presse de Bichente.
Alors Sylvain, dans la revue de presse, je voudrais qu'on commence avec Olivier Giroud.
Et on va l'écouter, Olivier Giroud, c'était le week-end dernier après son but du Scorpion.
Alexis Sanchez me donne le ballon et elle arrive derrière moi. Alors je la prends comme je peux, comme elle vient, et j'ai un maximum de chance. C'est surtout une question de chance, mais c'est le plus beau que j'ai jamais marqué.
Olivier Giroud qui revient au sommet avec Arsenal, il a marqué 3 fois Bichente en seulement une semaine. Hier, c'est lui par exemple qui a qualifié son club en cup pour le 3e tour, et il avait aussi égalisé le 3 janvier dernier à Bournemouth. J'ai
l'impression qu'il vit un peu les mêmes choses par rapport au public français qu'un certain Mathieu Valbuena.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a un petit côté phénix qui renaît de ses cendres, même si la période douloureuse a été beaucoup plus longue pour Valbuena. Mais c'est vrai que ces derniers mois ont été compliqués alors qu'il a réalisé un super Euro. Il est arrivé comme tout le monde avec beaucoup de fatigue. Il a été blessé sur sa préparation. Voilà, il a accepté son rôle de remplaçant, pas facile. Et puis là, il est en train de revenir à son meilleur niveau. Et c'est pas Olivier Giroud, c'est un peu comme Mathieu Valbuena. À la base, c'est pas les plus doués dans leur position, mais ce sont des joueurs qui ont une force mentale, voilà, extraordinaire et qui apportent beaucoup collectivement. Et c'est le cas d'Olivier Giroud avec Arsenal, avec l'équipe de France.
Ah. Attention, est-ce que vous allez reconnaître cette hymne-là ? C'est compliqué. Hein.
Ah, moi je sais. Je sais parce que je connais le thème que je vais aborder, c'est pour ça.
Moi je l'ai deviné.
Vas-y, Bertrand.
C'est le chinois.
Ouais. Voilà.
C'est ça ?
Mais non, on travaille ensemble, vous connaissez le programme de l'émission.
Voilà. Je voulais faire semblant de découvrir. Voilà.
Alors, je vais tenter ma chance. Pourquoi l'hymne chinois ? Car le championnat chinois, on en a encore beaucoup parlé cette semaine.
Énormément, et ouais. Ça va continuer.
Voilà, et il fait le buzz, puisque sachez que par exemple, le Belge Witsel, international de 27 ans, a signé donc, en Chine. Il a préféré le championnat chinois à la Juventus. Il va toucher 18 millions d'euros par an. Il y a un transfert d'un peu plus de 20 millions d'euros. Autre chiffre saisissant, Oscar, qui est remplaçant à Chelsea, a été transféré pour plus de 70 millions d'euros à Shanghai. Et Carlos Tevez, lui, est parti jouer également là-bas. L'Argentin, il touche 38 millions d'euros par an en salaire. Ça fait 100 000 euros par jour, 1 euro à la seconde, Bichette.
Et il a 33 ans, lui ?
Carlos Tevez, il a surpassé la trentaine. Son âge exact, là, j'ai un petit doute. Bon. Ça t'aurait plu, là ? Enfin, tu aurais fait ce choix, toi, en
32
ans ?
Non, écoute, je vais te dire quelque chose. Je suis très gêné par ces choix-là. Quand t'as 25 ou 27 ans, t'es dans la force de l'âge que tu peux jouer dans des grands clubs. Tu parlais de Witsel qui pouvait aller à la Juventus. Je suis assez gêné parce que, d'abord, quand tu joues dans des grands clubs, t'es très bien payé, déjà. Donc, très bien payé au point d'être mettre à l'abri ta famille, d'être tranquille jusqu'au restant de tes jours, sauf si tu fais des conneries.
Lui, il a dit qu'il aurait pu garantir la sécurité financière de sa famille.
Elle est déjà garantie. Tu vois ce que je veux te dire, donc à un moment
si
donné
tu ne fais pas de bêtises,
il faut
en effet.
Faire le juste compromis, c'est important de garantir la sécurité financière de ta famille, mais il faut trouver le juste compromis avec le sportif aussi. Donc moi je suis interpellé par ça. Si jeune, je ne suis pas d'accord. Après qu'il arrive en fin de carrière, que tu es plutôt sur la fin de ta carrière, sur la pente descendante à 33-34 ans, et que tu fasses un dernier petit coup là-bas, très bien, parce que ce championnat, c'est un championnat de deuxième zone. Pour le moment, c'est un championnat de deuxième zone, donc il n'y a strictement aucun intérêt sportif. Peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, enfin, j'y crois pas trop, hein, mais parce qu'ils veulent mettre beaucoup de moyens, ils veulent être compétitifs pour la Coupe du Monde qu'ils veulent organiser, donc ils vont être en capacité de former des jeunes et tout ça. Mais voilà, quand t'es un joueur, on va dire, de talent et jeune, tu pars pas là-bas. Tu vas en fin de carrière, c'était un peu comme le Qatar à une époque, et encore, quoi. Et encore, je pense qu'il y a matière à trouver un juste compromis. Et ça, franchement, je trouve ça naze, personnellement.
Bertrand ?
Naze et assez inquiétant que les Chinois, quand même, arrivent à convaincre certains joueurs qui évoluent dans des grands clubs. C'est vrai qu'Oscar était remplaçant à Chelsea, mais Bichette l'a dit, il a 25 ans, il est international brésilien, et il trouve le moyen d'aller en Chine. Ça veut dire que ça peut être une vraie concurrence pour l'Europe, non pas sur des joueurs type Cristiano Ronaldo, ouais, Messi, etc. Mais pour des joueurs de second rang, mais qui sont quand même des internationaux, ils arrivent à les convaincre. Moi, je trouve ça un peu inquiétant.
À mon époque, c'était le Qatar.
Mais c'était un peu plus tard dans la carrière.
Et moi, à mon époque, non. Là, c'est plus tard. J'aurais pu aller au Qatar.
Mais à 25 ans,
j'ai poursuivi.
À 25 ans.
Comment ? Non, pas à 25 ans.
Oui, c'est ça.
En fin de carrière, tu vois.
Mais là, ils arrivent.
Ma carrière, là,
ils réussissent à séduire des joueurs très jeunes.
Regarde le Qatar aujourd'hui. Aucun intérêt sportif. Ça ne s'est absolument pas développé. Pourtant, il va y avoir la Coupe du Monde. Alors, la Chine, c'est pas pareil.
Il y a des mondes dans les salles.
C'est un pays.
Il y a un enjeu politique en Chine.
Oui, il y a un enjeu politique, bien entendu. Mais de là arriver à faire un championnat où tu vas avoir des joueurs, un championnat de qualité, il va falloir quand même du temps. Je suis pas sûr qu'ils y arrivent. Par contre, faire une équipe nationale de qualité en prenant des très bons formateurs européens, ça, ils peuvent le faire. Tu vois. Mais pour les joueurs surtout, ça n'a pas de sens, quoi. Pour le moment, c'est l'Europe vraiment l'endroit où il faut être, quoi.
La revue de presse de Bichente Lissarasu que vous pouvez podcaster, retrouver après cette émission sur notre site RTL.fr.
Le Club Lisa sur RTL.
Le top d'éclat.
J'ai ressenti un coup à adducteur, mais j'ai aussi le diarrhée tous les jours.
Il a dit la tête, il vous met des coups de pression.
Moi, là, je suis à ma gueule, mon frère, tu penses qu'il peut me mettre un coup de pression, lui ? T'as un foot ou quoi ? T'inquiète pas, ils viennent, je sais pas où, mais nous on vient de se voir, frère.
Le top d'éclat.
Ouais, c'est vrai qu'avec Yo, on arrive à se complémenter.
Il va falloir mettre des sous. Alors, puisque vous en avez, c'est ce que vous ferez. En tout cas, c'est ce que nous vous demandons.
Ah, je vais faire un petit peu de sport, va. Je suis tout seul dans ma salle de gym. Il est 2h du matin.
Ah, c'est un régal.
Bon, alors messieurs, qui commence? Je commence?
Moi, non, moi je commence. Okay, je commence avec la soirée Coupe de France, parce que c'est un week-end Coupe de France tout à l'heure. Mais d'ailleurs, c'est un spécial Coupe de France top d'éclat. Hein. À 21h, donc Lyon-Montpellier, le vainqueur affrontera Marseille lors du prochain tour.
C'est moi aussi sur la Coupe de France.
Oui, exactement. Non, tu verras. En fait, hier soir, tous les samedis, il y a le multiplex qui est présenté par Christian Olivier avec Pascal Praud. Et hier, Pascal Praud régulièrement nous racontait de très belles histoires de Coupe de France. Et à chacune de ces histoires, il avait le droit à sa musique, à ce qu'on appelle son tapis musical. C'est un morceau d'accordéon connu par beaucoup. Et hier soir, on s'est rendu compte que ce morceau d'accordéon, il était un morceau de choix dans la playlist de Philippe Sanfour qui commentait PSG Bastia.
Vous pouvez nous envoyer vos meilleurs souvenirs également de Coupe de France, à vous tous qui nous écoutez derrière le transistor, sur les différents réseaux sociaux.
Et le morceau d'accordéon, c'était le dénicheur.
C'est-à-dire le dénicheur?
Le dénicheur, on l'appelait le dénicheur, il était rusé comme une fouine.
Ah oui, on l'appelait le dénicheur. Chantez-nous ça parce que.
Il était rusé comme une fouine.
Génial.
C'était un gars qui avait du cœur. Et qui dénichait les combines.
Excellentissime Philippe Sanfour, que vous retrouverez en concert dans toute la France lors des matchs du Paris Saint-Germain. Bichente, à toi maintenant si tu veux, Bichente.
Alors moi je voulais parler d'Emmanuel Dorado, le coach de Saint-Geniez-des-Bois, battu par Caen cet après-midi.
Oui, 3-0.
Et qui a des difficultés à installer une discipline avec ses joueurs, voilà, qui ont tendance à bouffer un petit peu n'importe quoi, avec à certains, manger un petit peu n'importe quoi, et à pas être complètement professionnel.
On l'écoute.
On part en déplacement récemment, j'ai un joueur dont je ne vais pas citer le nom, on s'arrête dans une station essence, qui est un très bon joueur, qui est un très très bon joueur, qui pourrait éventuellement passer au-dessus. Je vois, il prend des bonbons, des gâteaux, des machins, et je le regarde, je l'observe. Et quand il me voit, il relâche deux, trois trucs, mais il garde un paquet de bonbons à Dragibus, pour ne pas les nommer. Je lui dis, il ne faut pas manger ça. Il dit, non, ça coach, je suis obligé. Ça, c'est un paquet par jour, obligé. Et je lui dis, non, tu ne peux pas. Si tu veux franchir un palier, il faut commencer déjà par ça. Tu peux pas manger un paquet de bonbons par jour. C'est impossible. Parce que ça fait partie, la diététique fait partie du joueur de haut niveau.
Donc sur le sujet, tu as des révélations à nous faire ce soir.
J'ai des révélations. Alors, je précise, en aparté, j'avais comme une hygiène de vie stricte, je faisais attention et tout ça. Mais j'avais un petit péché mignon, c'est que tous les jours, je me faisais mon petit paquet de M&M's avec le café. Voilà, tous les jours, je me faisais mon paquet.
Mais un gros paquet?
Non, pas un gros, un petit. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'était arriver jusqu'à la cacahuète, tu vois. C'était me délecter du chocolat et arriver jusqu'à la cacahuète. Exactement.
Ah, d'accord.
Tu vois, j'adore la cacahuète. Et d'ailleurs, j'adore toujours. Ouais. Je me fais toujours mon petit paquet. Donc, bon, ça va. Tu vois, je m'en suis pas trop mal sorti. Mais bon, par ailleurs, je faisais pas trop le con non plus.
Allez, tournée de M&M, c'est de Dragibus ce soir. Bertrand, à toi.
Eh bien, on va revenir. On reste dans cette Coupe de France. Cet après-midi, l'Olympique de Marseille s'est qualifié aux dépens de Toulouse. Victoire 2-1 après prolongation. Mais l'événement, une fois de plus, c'est Pascal Duprat qui s'est distingué. On sait qu'il raille souvent quand il y a des supporters d'autres équipes qui viennent uniquement au stadium pour les matchs de l'équipe adverse. Et donc là, il y avait beaucoup de Marseillais au stade cet après-midi.
Qui sont aussi toulousains, en fait.
Qui sont aussi toulousains. Et il leur a très gentiment dit de retourner chez eux. Voilà, en gros.
Rentrez chez vous, les Marseillais.
Amaury Delruc a surtout demandé à Pascal Duprat de se calmer.
Rentrez-toi.
Et ce qui est très bon, c'est la voix de Thomas Mekic, puisque le match était retransmis sur Eurosport. L'arbitre lui demande de se calmer et derrière, il en remet une petite. Bon, on le changera jamais, Pascal Duprat, mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime bien.
Il est parti sur de bonnes bases. Hein. Ouais. Il est parti sur très bonnes bases. On est ensemble jusqu'à 21h dans le Club Lisa. Je vous rappelle dans un instant vos questions sur les réseaux sociaux pour Bichente. Elles seront relayées par Bertrand. Et puis, on va évoquer le cas de deux Français exilés en Angleterre, N'Golo Kanté, qui brille avec Chelsea, et Dimitri Payet, qui doute avec West Ham. Et puis, bien entendu, on sera dans l'avant-match de Lyon-Montpellier, dernier 32e de finale de la Coupe de France. Je vous rappelle que le vainqueur de ce match se déplacera à Marseille lors du prochain tour. Autres affiches entre clubs de Ligue 1, Rennes-Paris-Saint-Germain, Bordeaux-Dijon, Lille-Nantes ou encore Angers-Caen. A tout de suite.
RTL.
Le Club Lisa avec Bichente Lissarasso.
Les questions des auditeurs, Bertrand Latour.
Oui, Bichente Lizarazu, on commence avec une question de Maxime. On rappelle que vous pouvez envoyer les questions pour toi, Bichente, sur le Twitter, @leclubisa. Cette question qui concerne Julian Draxler, qui a marqué hier face à Bastia lors de la victoire 7-0, qui arrive pour un peu plus de 30 millions d'euros au PSG. Est-ce que c'est un bon coup, selon toi, Draxler au PSG, Bichente?
Écoute, je pense qu'il, pour ceux qui ont suivi son parcours à Schalke, ensuite à Wolfsburg, c'est très inconstant, très inconstant. Il a réussi à faire des grands matchs, et on se rappelle notamment du match avec Wolfsburg, le match aller contre le Real, où il avait été phénoménal. Mais voilà, c'est Il est présenté comme un très grand talent, l'un des plus grands talents de sa génération, mais pour l'instant, il n'a pas démontré ce talent-là. Donc, de deux choses l'une, soit il se révèle enfin avec le Paris Saint-Germain, soit c'est un crash, voilà, comme d'autres talents. J'espère qu'il va se révéler.
Ben voilà, voilà la réponse de Bichente. Et la deuxième question, elle te concerne directement. Cette semaine, le journal L'Équipe a consacré les 30 personnes les plus influentes du football français. Tu es à la 19e place. Oh. Donc je voulais savoir si tu avais ressenti une émotion particulière, comment tu avais vécu ce choix.
Ouais, c'est surtout, je me dis que si je bouge le doigt, vous quittez le club bizarre.
Exactement.
Voilà, je peux faire trembler le football français.
Non, mais c'est vrai en plus. Hein.
Méfiez-vous. Méfiez-vous, messieurs, je peux faire trembler le football français. Non, les vrais boss, c'est Didier Deschamps et Zizou.
D'accord, mais
premier Didier Deschamps, Zizou, je pas loin, non.
Mais ça te fait plaisir quand même.
Écoute, je sais pas si en faisant ce métier-là, t'as une vraie influence. Je pense que t'as une vraie influence quand tu es dirigeant. Nous, on donne un point de vue.
La question d'Hervé qui concerne la Coupe de France, on en a beaucoup parlé tout au long de cette émission. Le petit Pousset, on a le Poiré Survie là qui va jouer au prochain tour.
Le Poiré ou le petit Pousset,
comme on veut, le Pousset. Pour faire plaisir à Christian Olivier.
Selon Christian, oui, c'est Pousset.
Le Poiré Survie contre Strasbourg au prochain tour, etc. Est-ce que David contre Goliath, les pros contre les amateurs, ça t'excite ?
Non, c'est pas ça. Ce qui m'énerve, vraiment, ce qui m'énerve, c'est le côté la présentation, la revanche sociale, tu vois, du tout petit club contre le club riche de Ligue 1, bourgeois, tu vois, présenté comme ça. Non, en Coupe de France, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'il y a une équipe qui joue le match de sa vie contre une équipe de première division qui prend le match pas complètement à fond comme ici il le ferait en Ligue 1 ou sur un match plus important et qui se fait taper malgré le fait qu'en termes de talent, il n'y a pas photo entre les deux équipes. Point barre. Et ça arrive à tout le monde. Pourquoi ? Parce que quand tu relâches la concentration, eh ben, t'es moins bon. Voilà. Et c'est pour ça que de temps en temps, une équipe de Ligue 1 se fait piéger. Mais quand on présente ça avec le côté social, revanche sociale, le côté ouais, de toute façon, ils sont plein d'argent, ces joueurs, c'est insupportable. Je trouve ça nul. Voilà.
Vos différentes questions relayées par Bertrand Latour sur le compte Twitter, notamment de Bichente Lissarasso et de l'émission Le Club Lisa.
Le Club Lisa
sur RTL.
Le Conseil de l'Europe.
Le Conseil de l'Europe.
Et dans le Conseil de l'Europe, on va aller en Angleterre. On va recevoir notre expert anglais, Bruno Constant. Salut Bruno.
Good evening.
Good evening Bruno. Alors on va parler de deux sujets qui te concernent. On va parler d'N'Golo Kanté, on va parler de Dimitri Payet pour des raisons différentes. On va commencer par quoi, Sylvain? N'Golo Kanté. Allez, incontournable à Chelsea. Progression fulgurante pour lui puisque donc il vient d'arriver à Chelsea. Il réalise encore une première partie de saison de grande qualité. Fait partie des. Est-ce qu'il fait? Oui, il a fait partie de l'équipe type de la première partie, je pense.
C'est incontestablement la révélation en 2016 en Angleterre. Faut pas que sa dernière performance avec Chelsea sur la pelouse de Tottenham altère ce qu'il a réalisé en 2016.
Il était sorti à 10 minutes de la fin.
C'est la première fois qu'il était remplacé en cours de match par Kanté. Il avait un peu moins de gaz que d'habitude et limite c'était presque rassurant. C'est qu'on s'est rendu compte que Kanté était humain, que c'était pas une machine. Et en Angleterre, on n'a jamais vu un joueur avoir autant d'impact dans deux équipes différentes sur deux saisons de suite, que ce soit à Leicester, que ce soit à Chelsea. Il est absolument impressionnant. C'était l'un des éléments clés du titre de Leicester. Il est devenu incontournable à Chelsea, qui en a fait donc un grand favori pour le titre, le leader incontestable. Il est évidemment à chaque fois maintenant comparé à Makelele. Et puis comme on dit en Angleterre, au moment de la période de fin d'année, on fait tous des équipes types de mi-saison, des équipes types de l'année 2016. Il était absolument dans toutes les équipes types de tous les médias, de tous les consultants. C'est ce qu'on dit en Angleterre, c'était un no-brainer, c'est-à-dire que c'est un choix d'une évidence absolue et il est incontournable.
Et pourtant, Bichente, il n'est pas titulaire en équipe de France. Parce qu'aujourd'hui, les incontournables ont deux noms notamment. Ce sont ceux de Pogba et de Matuidi. Et je peux peut-être rajouter pour certains le nom de Sissoko. Ça fera plaisir à Bertrand.
Oui, mais aussi parce qu'il y a eu un changement de système, on le sait, qui favorise Antoine Griezmann, de ce 4-3-3 qui est devenu un 4-2-3-1. Donc on joue avec deux milieux défensifs, Pogba et Matuidi, le plus souvent. Mais bon, ça peut évoluer, hein. On peut aussi imaginer...
Mais tu penses que ça peut arriver, ça, que N'Golo Kanté continue de monter en puissance et prenne la place d'un des deux dans ce milieu de terrain, à deux ou à trois.
Plus Matuidi que Pogba, mais oui, bien sûr, ça peut arriver. Bien sûr, ça peut arriver, puis rien n'est définitif. On peut revenir sur un système en 4-3-3 aussi. Enfin bon, voilà, il y a pour l'instant, Didier Deschamps, il a un système qui fonctionne très bien, qui dépend aussi de la forme des uns et des autres. Et c'est vrai que s'il monte encore en puissance comme ça, N'Golo Kanté, il peut s'imposer aussi en équipe de France.
En revanche, il y en a un qui nous fait un peu douter, Bruno, c'est Dimitri Payet. Alors, douter sur ses performances, c'est pas forcément évident dans une équipe de West Ham qui n'est pas au mieux par rapport à la saison dernière, mais par rapport à son avenir, parce qu'en début de semaine, son nom a été cité pour revenir à Marseille. Qu'est-ce qu'on en pense en Angleterre? Qu'est-ce qu'on dit de ça?
Ce qui est surpris surtout, c'est que c'est principalement venu de lui. C'est-à-dire dans ses déclarations où il a semé un peu le trouble en disant qu'il aimerait laisser la porte ouverte, qu'il aimerait revenir à Marseille, que pourquoi pas. Donc forcément, ça a semé le doute. Ça a semé le doute parce qu'il y a 6 mois, donc l'été dernier, son nom déjà était dans la rumeur transfert. Certains supporters se demandaient si le club allait pouvoir le conserver après une telle saison. C'était un joueur beaucoup trop important d'une qualité beaucoup trop importante pour un club comme West Ham, pensaient les supporters. Et Mark Noble, qui est le capitaine du club, qui a déclaré récemment que ça serait un choc si Payet partait en janvier, que West Ham ne peut pas se permettre de le perdre à ce moment de la saison. Et puis il faut se souvenir de ce qu'avait dit David Sullivan, le coprésident du club, en juillet dernier. Il avait dit parfois les clubs doivent être fermes et dire il est sous contrat avec nous, c'est notre joueur, donc il reste. Et il y a eu une interview de Sullivan le 25 décembre, une interview donnée à Sky. Et la question c'était: est-ce que vous êtes confiant sur le fait de conserver Dimitri Payet à West Ham en janvier? Quand on parlait de l'OM, il a dit 2 mots, très confiant. Donc il veut le garder. Slaven Bilic est très clair aussi, il ne veut pas le lâcher, ils ont besoin de lui. Le seul truc, c'est qu'il y a eu un moment de trouble parce qu'il y a eu cette information qui avait été révélée par le Times au mois de novembre-décembre sur cette histoire de clause. Il y aurait une clause dans son contrat: en cas de relégation du club londonien, il pourrait partir contre un chèque de 15 millions de livres, ce qui est très peu pour Payet. Et à cette époque-là, West Ham était seulement un point au-dessus de la zone de relégable. Et il y avait le doute, voilà, est-ce qu'il ne faudrait pas vendre Payet dès maintenant, dès le mois de janvier, faire un gros transfert de 40, peut-être 50 millions de livres ou d'euros et gagner de l'argent sur une possible relégation. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. West Ham va beaucoup mieux. Ils veulent le garder, ils veulent qu'il reste avec lui. Le truc, c'est que maintenant, son nom est circulé aussi du côté de l'Angleterre.
Oui, voilà. Alors moi, c'est ça. Oui. Bruno, c'est ce que je voulais savoir. C'est en Angleterre parce qu'il a fait le plus dur, Dimitri Payet. C'est-à-dire qu'il est arrivé en Angleterre, il s'est imposé à West Ham. Enfin, il a fait partie des meilleurs joueurs de la saison dernière. C'est pas rien. Et puis l'Angleterre, c'est un des meilleurs championnats. T'as une renommée mondiale quand tu évolues.
Toi,
tu
lui conseillerais de rester en Angleterre?
J'ai absolument rien à lui conseiller, mais je veux dire, le plus dur est fait. C'est quand t'arrives à l'étranger, de faire tes preuves à l'étranger, c'est ça le plus difficile. Il l'a fait. Alors après, moi, la question que je pose à Bruno Constant, c'est quelles sont les autres options en Angleterre? De quoi on parle? De quel club on parle en Angleterre?
C'est ça. Il est en train de toucher du doigt le Graal. Son nom circule. Il a circulé du côté de Chelsea. Il a circulé du côté de Tottenham. On dit que Manchester United et Mourinho le suivraient avec intérêt. Et puis surtout, il y a Arsenal, où les négociations sur la prolongation de contrat de Mesut Ozil sont en point mort. On est en train de se dire que peut-être qu'il serait plutôt faire davantage l'effort pour garder Alexis et peut-être remplacer Ozil. Et pour remplacer Ozil, il y a un joueur du profil de Dimitri Payet, un passeur, un buteur, qui est peut-être plus facile. Ozil plus facile à remplacer avec un joueur comme Payet.
Dossier à suivre donc, Dimitri Payet dans le club Lisa.
Merci.
Merci Bruno Constant.
Merci.
Notre voix londonienne, notre voix anglaise dans le club Lisa. Tout de suite, direction Lyon.
Et un but en faveur des Lyonnais.
Frappe de Rachid Ghezal à l'extérieur de la surface. Ouverture du score. Stupeur ici au Stade Louis II. C'est Lyon qui mène 1-0.
C'est un objectif. On a pu s'entretenir avec le coach ce matin. On a pu faire le point sur la deuxième partie de saison. Et c'est vrai que ça nous tient à cœur de bien rentrer dans cette compétition.
Sur ce que sont les forces en présence aujourd'hui, il n'y a pas photo. Ce match sera difficile. Je pense qu'aujourd'hui, la Coupe de France devient un vrai objectif aussi pour Lyon.
C'est Bichette, notre dernier 32e de finale ce soir. Lyon-Montpellier, coup d'envoi dans un peu plus de 5 minutes. Et on le sait déjà, on va le rappeler, hein, cette équipe de Lyon ou celle de Montpellier sera opposée à Marseille au Vélodrome en 16e de finale en cas de qualification. Mais cette équipe lyonnaise, on attend aussi de la voir sur tous les tableaux sur cette deuxième partie de saison parce qu'elle nous a donné de belles choses par intermittence.
Mais on attend en effet de voir ce quatuor qui sur le papier a de la gueule. Fekir, Valbuena, Lacazette, Ghezzal. Alors on en a parlé tout à l'heure. Avec
sans Ghezzal à la canne, hein, ouais, sur le mois de janvier.
Mais globalement, quand ce quatuor va être actif, et ça peut être très intéressant. Mais pour revenir sur Valbuena, il revient à son meilleur niveau. C'est un excellent passeur qui peut bien alimenter Lacazette ou Fekir. Et comme l'a dit Valbuena, on les a trop peu vus ensemble, les trois, Fekir, Lacazette, Valbuena. Eh ben on a hâte de les voir fonctionner ensemble, voilà, tout simplement. Et ça peut changer aussi la donne concernant les performances de l'OL.
Willy Mezonas est avec nous, il sera au commentaire.
Il est encore avec
instants.
Nous, Willy. On a passé toute une semaine ensemble, Willy.
Mais bon. Oui, on ne se quitte plus, on ne se quitte plus.
Les compos, Willy. 2017. Les compos.
Les compos. Mathieu Valbuena sera bien dans le 11 de Bruno Genesio. Lopez dans le but. En défense centrale, Yanga Mbiwa associé à Diakabi. À droite, Raphaël. À gauche, Morel. Deux milieux défensifs, deux à la récupération, comme en fin d'année 2016. Touzard associé à Gonalon. Et puis ensuite, le quatuor offensif. Fekir, Valbuena, donc Cornet à droite et Alexandre Lacazette en pointe.
C'est vrai, Bichène, tu le disais, on est impatient de voir comment ces trois-là, notamment, pourraient fonctionner, parce que Mathieu Valbuena le rappelait, ils n'ont eu que très peu l'occasion d'évoluer ensemble, et sur le papier, ça peut faire frissonner les supporters de l'OL.
Normalement, on a parlé du cas Valbuena, donc il devrait continuer sur sa... on va dire fin d'année de qualité. Le cas Fekir, ouais, rupture des ligaments croisés du genou. Il y a eu un petit frémissement quand il est revenu au bout de 6 mois. Il a fait des bons petits matchs ou des bons bouts de matchs, et parce que tu as une espèce d'euphorie de la reprise. Mais après, le naturel, quand je dis le naturel, physiologique revient au galop, et il te faut, il a enchaîné des périodes un peu difficiles où physiquement ça a été compliqué pour lui. Donc normalement, après une blessure comme la sienne, après le temps qui y est passé, normalement, le meilleur de Fekir doit arrivé aujourd'hui. Donc Valbuena qui reviendra à son meilleur niveau, Fekir qui reviendra à son meilleur niveau et associé à Lacazette, ça devrait pouvoir être très intéressant pour l'OL.
Il avait brillé face à Montpellier lors de la phase aller, rappelez-vous, c'était deux buts, et là on avait cru justement que c'est le départ vraiment de Nabil Fekir. Derrière ça a été un petit peu plus compliqué, mais bon, la donne est souvent claire avec ce genre de blessure. On dit qu'il faut 6 mois pour soigner et
un an pour revenir à son meilleur niveau.
Mais quelle impression il te donne toi, Willy, sur ce que tu peux voir en entraînement dernièrement, ces dernières semaines?
Ce qui est clair, c'est que je le trouve plus concerné qu'à une certaine époque à l'Olympique Lyonnais, où d'ailleurs il avait pas seulement agacé certains supporters, il agaçait aussi en interne. On s'était posé beaucoup de questions sur l'avenir lyonnais d'ailleurs de Nabil Fekir il n'y a pas si longtemps, même à l'intersaison. Et finalement il a l'air aujourd'hui plus investi. De toute façon, il sait qu'il doit faire mieux pour l'OL, mais d'abord pour lui.
Willy, quand ton corps ne répond pas comme avant, tu te poses beaucoup de questions et tu as tendance à te renfermer sur toi.
Tout à fait.
Et du coup, laisser cette impression-là de ne pas être concerné. Et donc, il faut se méfier des apparences, parce que je pense que le premier qui a souffert, c'est Nabil Fekir, de ne pas avoir les mêmes sensations qu'avant. Voilà, et c'est le cas de tous les joueurs blessés.
Ouais, mais il a d'ailleurs souffert non seulement de ses difficultés sur le terrain, mais aussi des commentaires, des doutes qu'il y avait quant à son investissement ou son envie de réussir à l'Olympique Lyonnais. Donc c'est vrai que c'est un garçon sans doute aussi revanchard pour cette année 2017.
Allez Willy, on te retrouve dans quelques instants avec Serge Peillot au commentaire. Je vais vous rappeler quand même, parce que c'est une soirée Coupe de France, Bichette, le tirage au sort est tombé. Le vainqueur de Lyon-Montpellier sera opposé à Marseille en 16e de finale le 31 janvier ou le 1er février. Ce sera des matchs en semaine. Rennes-Paris-Saint-Germain, ce sera l'une des affiches de Ligue 1. On aura également Bordeaux-Dijon, Lille-Nantes et Angers-Caen. On va y revenir de manière plus complète tout au long de la soirée, mais également sur notre site internet rtl.fr. C'est terminé, Bichente. On se dit au revoir.
Ouais, merci à vous. Ça faisait du bien, ce petit quart d'heure de plus là. On revit. Hein. Ça nous fait du bien. Merci.
On est monté en température avant ce match. Et la semaine prochaine, votre invité de prestige.
Ouais, oui.
Rudy Garcia,
l'entraîneur de l'OM.
Allez, on vous embrasse. Salut, Bichente.
Allez, ciao. Salut à tous. Bye.